jour, un livre, un auteur, chaque semaine. C'est du plaisir pour certains, peut-être une torture pour d'autres. Un jour, un livre, un auteur avec Philippe Nolidier Guarabal. Alors, moi, je vous avertis de suite, c'est du bonheur.
Oui, tout à fait. Oui, c'est du bonheur de se retrouver. Bonjour, Diego Guarabal.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Et puis, au téléphone, nous avons un troisième Philippe.
Oh là là. Là,
là, c'est... Alors, c'est Philippe Pourset.
C'est le Black Friday. On en achète un, on en a trois.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, bonjour Philippe, voilà. Bonjour, Philippe. J'ai le plaisir de vous recevoir. Jusqu'à présent, moi, je vous ai rencontré souvent à des salons. On a souvent discuté ensemble autour d'un verre ou autour d'un repas. Mais c'est la première fois que je vous reçois sur cette antenne et j'en suis fort heureux. Je vous reçois pour votre nouveau roman qui s'appelle « Du sang dans la vallée » aux éditions TDO. Comme d'habitude, je vais sacrifier une petite lecture d'un texte que m'a suggéré votre roman. Vous pourrez réagir en bien ou en mal. Comme nous sommes au téléphone, vous ne pourrez pas me taper dessus, mais si vous étiez là, vous auriez pu. En tout cas, vous pourrez réagir. Lorsqu'un ami de sa compagne, Fred, est retrouvé assassiné, le capitaine François Berry ignore que ce crime inaugure une série d'homicides dont le point commun intrigant est une patte d'oie abandonnée sur les cadavres. Si l'affaire est du ressort de la gendarmerie, le major n'est pas mécontent du coup de main du capitaine. Pendant que les crimes se succèdent, un seul suspect semble être idéal, Arroyos, un marginal sanguin qui a la particularité d'avoir les mains palmées comme celles des oies. Mais le hic, c'est qu'il est désormais introuvable. Et comble du stress, un journaliste localier ne cesse d'interférer dans l'affaire pour stigmatiser les enquêteurs. Fin connaisseur des vallées pyrénéennes, Philippe Pourset poursuit avec ce polar son exploration de la vallée d'Or. L'histoire est menée de main de maître par l'auteur qui accumule les homicides et les rebondissements dans la veine d'un François Ponson du Terrail, d'un Gaston Leroux ou d'un Eugène Sue. Entraîné dans cette course contre la montre, le lecteur a beau cogiter au rythme des enquêteurs, le meurtrier a toujours un coup d'avance. Un divertissant roman à lire au coin du feu en regardant tomber la neige, mais en évitant d'aller ouvrir la porte si quelqu'un sonne. Du sang dans la vallée, Philippe Pourset, édition TDO. Alors Philippe, qu'est-ce qui vous a... Oui, pardon ?
Oui, très bien. Ouais, je suis ému par par ce retour de lecture.
Vous y retrouvez?
Oui, tout à fait. Oui,
d'accord.
Oui, très bien saisi.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de poursuivre? Parce que vous aviez déjà c'était dans Rappel sanglant sur l'Arbison, votre précédent roman, vous aviez déjà fait une incursion dans cette vallée d'Or. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette vallée?
Cette vallée est d'abord la vallée de mon enfance. Je passais mes vacances d'hiver et d'été à Arreau. Et donc, avec mes parents, avec mon père, on allait souvent dans les coins en hauteur de cette vallée. J'ai gardé une certaine nostalgie. Alors, en fait, quand j'ai commencé à écrire du rappel sanglant dans l'Arbison, c'était d'abord cette motivation. Alors après, les romans, les polars que j'écris dans cette vallée n'ont aucun rapport avec moi, hein, je tiens à le dire.
Ah bon, c'est... Vous ne racontez pas des épisodes de votre jeunesse?
Non, je n'ai tué personne. Et enfin, il ne faut pas que ça se sache.
Ouais. C'est ce que vous nous dites, mais on n'est pas obligé de vous croire, Philippe. C'est ce
voilà.
Que vous...
Je laisse l'acteur.
Alors, ce capitaine Berry, c'est un policier récurrent dans vos romans. Présentez-nous un peu ce capitaine.
C'est un capitaine un peu atypique. Il est souvent distrait, il se trompe souvent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses pistes. Il suit des pistes qui ne sont pas toujours les bonnes. Mais il a quand même le feeling, enfin il sent les choses quand même au bout du compte, il finit toujours ou pas. D'ailleurs, non, c'est vraiment quelqu'un, c'est un humain, c'est pas le policier, c'est pas Maigret, c'est pas sûr de son savoir. Enfin, il n'est pas infaillible, quoi.
D'accord.
Et il a un peu d'humour. Il a de l'humour.
On voit qu'il a de l'humour. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur quelqu'un que vous connaissez pour ce personnage ?
Non, pas vraiment. Mais c'est peut-être au cours de toutes les lectures que j'ai eues depuis ma jeunesse. J'ai peut-être croisé ce personnage par partie.
D'accord.
Ou peut-être dans la vie réelle, oui, c'est possible, oui.
Mais
là,
vous
j'ai
nous
pas
direz...
vraiment un personnage vraiment défini avant, quoi.
D'accord. Donc vous ne direz pas si c'est quelqu'un qui vous a donné l'idée de ce personnage, vous ne donnerez pas de nom.
Non, mais honnêtement, j'en ai pas. C'est un mélange de beaucoup de choses, comme souvent, c'est plusieurs rencontres, plusieurs lectures, ou plusieurs films, ou plusieurs. Ça, depuis très longtemps, quoi. C'était dans ma mémoire, peut-être.
D'accord. Et c'est un policier qui n'est pas basé dans la vallée d'Arrau, là. La vallée d'Arrau étant une zone gendarmerie. Donc,
oui.
Il est d'où ce policier?
Alors, il est de Pau parce que s'il n'y a pas de PJ à Tarbes, et c'est là, si on fait appel à la PJ dans une affaire dans la Vallée d'Or, c'est celle de Pau. Donc j'ai été obligé de le faire de Pau, ce qui ne m'a pas dérangé puisque je suis moi-même béarnais.
Personne
voilà.
N'est parfait.
Et oui, c'est ça. Et je tiens à dire qu'il y a aussi entre le rappel sanglant, où il apparaît, sanglant sur l'Arbison, où il apparaît, et du sang dans la vallée, dont on parle, il y a eu aussi Saltan en Béarn.
Oui, c'est vrai.
Oui, ouais. Non, mais c'est juste pour...
Oui, vous avez un personnage qui est revenu sur trois oui. de ces rapports. Ouais, ouais. Juste pour préciser qu'effectivement, la PJ, elle est à Pau, dans le sens où, assez paradoxalement, les Hautes-Pyrénées sont du ressort de la cour d'appel de Pau. Et donc, c'est le ressort de la cour d'appel qui organise, en fait, le fonctionnement des polices judiciaires. Et donc, c'est la police judiciaire de Pau qui a la charge des Hautes-Pyrénées, des Landes et, bien entendu, des Pyrénées-Atlantiques. Mais bizarrement, les Hautes-Pyrénées sont en Occitanie, mais... du ressort judiciaire, ils sont... Alors ça, c'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire, et puis je pense que quand l'Occitanie a été montée, à l'époque avant, on avait l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, ça existait déjà d'avant les nouvelles régions.
Ça date de l'implantation des cours d'appel par Napoléon Ier en 1807. Oui, effectivement. Et il avait fait ce découpage-là à l'époque. Et
oui,
à l'époque, il n'y avait pas de région, c'était des départements. Et donc, ils avaient englobé les trois départements, les Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Et donc, c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant qu'on ait la PJ.
Ce qui n'est pas incohérent d'un point de vue linguistique non plus.
Non, ce n'est pas incohérent du point de vue de...
À l'époque, au début du 19e, voilà, ce n'était pas incohérent d'un point de vue linguistique. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Effectivement, ça pourrait être renouvelé, comme vous le dites, Diego Arrabal, par rapport effectivement aux nouvelles régions.
Oui, oui. D'autant plus que, historiquement... les Hautes-Pyrénées faisaient partie du Parlement de Béarn.
Tout à fait.
Oui,
donc,
Philippe.
Au départ, c'était en fait pour. Au départ, ils voulaient associer un département entre les Pyrénées-Atlantiques et le Béarn, mais ça posait un problème avec les Basques. En fait, ils voulaient pas laisser les Basques tout seuls, parce qu'il y avait toujours, il y avait déjà une volonté de sécession, en gros. Hein.
C'est
ce que j'ai compris, c'était ça. Au départ, ça avait été envisagé qu'on réunisse un département entre les Pyrénées-Atlantiques, en fait, le Béarn plutôt, et la Bigorre, en fait.
Ça aurait laissé le Pays Basque, ou du moins les deux provinces françaises du Pays Basque, ça les aurait laissées orphelines. Ouais.
Voilà, orphelines, et puis tentées à la sécession.
Oui. Alors, cette histoire-là de pas de doigt est quand même assez, assez étrange. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sans déflorer le sujet?
Ah oui, au départ, c'est parce qu'il y a un comment on appelle ça, un soupçon sur un personnage qui a les dents, qui a les dents, qui a les mains palmées.
Les mains palmées, ouais. Aoyos, ouais.
Et les mains et peut-être même les pieds palmés, c'est-à-dire c'est une maladie qui apparaît de temps en temps. Enfin, c'est pas une maladie, mais c'est une malformation qui apparaît de temps en temps. Alors ça là, elle m'a été inspirée par Sherlock Holmes.
Ah oui.
Eh oui. Et en fait, dans le, comment on appelle ça, le chien des Baskerville.
Oui.
Où les personnages sont atteints par cette malformation. Mais enfin, c'est tout. C'est juste.
C'était un clin d'œil. Avec,
c'était un clin d'œil. Oui.
D'accord.
Voilà, un clin d'œil avec avec Sherlock Holmes. Mais ça a aucun strictement aucun rapport avec les deux histoires.
Hein, d'accord. À part la particularité du. Oui. Du personnage qui est le suspect numéro un et le suspect le plus évident puisque c'est un marginal.
C'est un marginal qui est déjà impliqué dans des affaires qui correspondent un peu aux victimes. Mm-hmm. Donc c'est et en plus il est atteint par cette donc la malformation de la main impliquée la ou disons on pouvait faire le rapprochement avec la patte doigt. Parce que quand on regarde bien une patte doigt et une main palmée, c'est
très oui, il y a une certaine proximité.
Et, voilà.
Philippe, oui.
J'avais une question. C'est vrai qu'au départ, quand on lit votre roman, Philippe Pourxet, la patte doigt, ça avait aussi une signification par rapport au cagot, puisque le signe de reconnaissance des cagots, c'était également donc, le port de la patte doigt sur leurs vêtements, comme on faisait porter donc, l'étoile jaune aux Juifs, hein, ce qui permettait de distinguer les cagots des autres. Là, cette patte doigt, ça n'a rien à voir avec les cagots.
Alors, il faut peut-être pas, oui.
Non, mais je pense pas. Mais
disons que c'est une piste
alors,
possible.
Pour répondre, je dirais aussi historiquement, c'est aussi la patte d'oie a été aussi portée par les lépreux.
Par les lépreux, les lépreux, tout à fait.
Pas les cagots, mais enfin les cagots aussi, mais je veux dire les vrais lépreux qui étaient atteints de la lèpre, parce qu'on disait que les cagots avaient la lèpre, mais bon.
Oui, c'est par extension de.
Au cours du temps, ils étaient plus du tout lépreux, mais ils portaient toujours la patte d'oie, oui.
Alors ça, c'est une des pistes que qu'essaye de suivre.
Oui, il y a un historien qui le met sur cette piste, mais bon, faut voir.
Ouais, c'est une piste parmi d'autres.
Mais ça fait long feu, quoi. Ça fait long feu.
Il faut lire le roman.
Oui, c'est un peu compliqué, oui. C'est... On parlait ça.
Bon, donc on va pas vous interroger. On va pas vous interroger plus avant dessus sur cette patte d'oie pour pas trop dévoiler.
Alors le major, c'est une petite escouade.
Oui.
Ils sont combien? Ils sont 4 ou 5 dans cette gendarmerie. C'est aussi il est devenu un ami pour Berry. Et il voit d'un bon œil que ce policier lui donne un coup de main dans cette affaire, comme c'était le cas dans une affaire précédente.
Voilà.
Vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage, parce qu'il est sympa, et puis il est un peu paumé lui aussi, non?
Alors le major, oui, c'est ça. Oui. Le major, il apparaît dans le rappel sanglant sur l'Arbison.
Ouais.
Et en fait, il est de la brigade, de la gendarmerie de d'Arro, qui gère toute la vallée d'Or, en gros. Et en fait, lui, il est vite débordé, quoi. En fait, lui, c'est les périodes de vacances. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il n'a pas beaucoup d'hommes, donc ça l'arrange bien que ce policier désigné soit qui connaît déjà donc soit désigné pour mener pour chapeauter l'enquête et parce que lui il est un peu débordé par tout cela et c'est pas vraiment un enquêteur, c'est plutôt un gestionnaire de la vallée, un bon père de famille comme on dit. Mmh. Et c'était quelqu'un un peu alors il apprécie beaucoup Berry parce que mais même s'il trouve sa méthode un peu atypique. Et il aide quand même parce qu'il lui donne beaucoup d'indices, beaucoup d'informations sur les suspects. Mmh. Donc c'est quand même pas lui et quelques gendarmes qui connaissent bien la région et surtout les gens qui interviennent dans cette affaire. C'est-à-dire il y a quelques personnages qu'on retrouve et il aide beaucoup dans la dans cette enquête, mais par des renseignements, par des... Et puis surtout, ils font leur travail de gendarme, c'est-à-dire quand il faut bloquer la vallée, ils bloquent la vallée, quand il faut faire des barrages ou des vérifications, c'est eux qui le font.
Oui, mais on voit bien, bon, c'est quand même une petite compagnie de gendarmerie qui est dans la vallée, qui est rarement confrontée à des homicides. Et donc, eux, c'est beaucoup plus un travail de présence, je veux dire, le travail que fait la gendarmerie en règle générale, voilà. C'est-à-dire d'information, de présence, le travail de suivi un peu de ce qui se passe, de secours aussi, mais pas forcément d'homicide, c'est quand même une petite vallée, a priori les homicides sont pas fréquents, et je veux dire, eux ils sont pas rompus à ces enquêtes et à ces techniques d'enquête. Ce qui n'est pas le cas de Berry, qui lui est un policier de la PJ, quoi. Donc lui, il a une expérience, il a des méthodes de travail, même s'il est un peu tête en l'air et qu'il part sur plein de pistes et qu'il rêve beaucoup, ça ne l'empêche pas de mener son travail jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que c'est une aide précieuse pour un gendarme qui, lui, est novice dans ce travail d'enquête autour d'un homicide. Parce qu'il y a quand même des choses plus importantes à faire qu'il ne sait pas forcément faire.
Oui, et puis surtout que... Il n'y a pas beaucoup de criminalité, enfin en tout cas d'homicide dans la Vallée d'Or. Donc...
vu la population qu'il y a en Vallée d'Or regarde le fait qu'en France, bon, on est autour de 800-850 homicides par an, c'est clair que ça en fait peu par 10 000 habitants. Donc dans une vallée comme la Vallée d'Or, là vraiment vous faites fort parce qu'il y a quand même au moins 4 ou 5 homicides. Donc ça fait beaucoup. Les statistiques montent en flèche.
Voilà, je remonte un peu le niveau.
Et on précise pour les auditeurs et les auditrices la Vallée d'Or que c'est un roman. Hein.
Oui, c'est un roman, oui.
Oui, oui, les habitants de la Vallée d'Or n'ont rien à craindre. Hein.
Voilà, c'est pas un document. Hein.
Donc, voilà, on arrive au bout de notre temps, mais Philippe, vous voulez encore poser une question à Philippe.
Alors, j'avais juste une intervention, Philippe Pourxet, donc pour votre roman Du sang dans la vallée, par rapport aux éditions Terre de l'Ouest, parce qu'on dit édition TDO, et en fait quand les lecteurs et les lectrices vont venir chercher votre livre, s'ils cherchent édition TDO, en fait sur le livre c'est marqué Terre de l'Ouest, on va dire deux mots de cette maison d'édition, parce que la particularité de cette maison d'édition déjà c'est d'être une maison d'édition locale. Il faut quand même effectivement le rappeler. En fait, il y a deux Terres de l'Ouest. Hein. Il y a Romain Champagne qui s'occupe de Terres de l'Ouest, donc maison d'édition qui est basée dans le pays catalan, mais ils ont également donc une antenne dans le Gers.
C'est TDO, mais c'est Terre d'Occitanie.
Voilà, c'est Terre d'Occitanie. Et il y a Terre de l'Ouest de l'autre côté, en parler, c'est Benjamin Jugiot, qui est donc je pense que c'est avec lui que vous devez travailler, Philippe Pourxet, ou Terre d'Occitanie. Oui. C'est lequel des deux ?
Alors, je travaille avec Terre de l'Ouest, c'est-à-dire avec Benjamin Jugiot. Mais en fait, parce que de toute façon, c'est pas une frontière infranchissable. Oui. Et c'est vrai que ça se trouve en Occitanie, Sénari, Arro et la Vallée d'Or, mais on l'a fait quand même.
Voilà. Et alors, je voulais en parler, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui me semblait important à situer, c'est que les éditions Terre de l'Ouest ont une capacité de diffusion qui est extrêmement importante, puisqu'ils ont, on le voit le préciser quand même pour les auditeurs et les auditrices, bien entendu, on le trouve en librairie, mais on va aussi le trouver dans la grande distribution. Ils ont leur propre meuble de distribution, ce qui fait qu'effectivement ça marche très bien, ce qui fait que si quand les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent vont chercher votre livre, s'ils vont dans la grande distribution, qu'ils ne le cherchent pas dans les livres, donc dans les endroits traditionnels,
Mais sur le présentoir spécifique.
Mais sur le présentoir spécifique qui est en tête de gondole tout le temps. Donc en, et ce qui permet effectivement aux éditions Terre de l'Ouest, par rapport à ses auteurs et ses autrices, de pouvoir avoir une capacité de diffusion qui est très importante. Ça, je voulais le signaler pour les éditeurs et les auditeurs et les auditrices. Donc on en profite s'ils nous écoutent pour saluer Benjamin Jugeot par rapport au travail qu'il fait. Et deuxième point que je voulais dire, Philippe Pourxet, je voulais parler de la librairie Bleu et Or à Saint-Lary-Soulan, justement, puisque votre roman se déroule dans la Vallée d'Or. Et à une époque, Lucie Plessala nous disait que la meilleure vente qu'elle avait dans sa librairie, ce sont les romans de Philippe Pourxet, justement.
Oui, surtout Rappel sanglant sur l'Arbisan. Oui,
voilà, ça a été sa meilleure vente de l'année, donc il faut quand même le préciser. C'est pour ça que je voulais parler à la fois de la grande distribution, mais aussi des librairies pour le trouver. Donc,
librairie indépendante.
Voilà, librairie indépendante. Comme on est diffusé sur toute la région Midi-Pyrénées, notamment sur Toulouse, et que bientôt il y aura les vacances de fin d'année, puis les vacances de février où les touristes vont venir, ils auront l'occasion de trouver votre roman à la librairie Bleu et Or à Saint-Lary-Soulan, je le rappelle, qui est ouverte tous les jours de l'année. Voilà.
Très bien.
Eh bien, Philippe, nous arrivons au bout de cette rencontre, de cette interview. Donc, vous avez quelque chose en cours de travail là sur les romans, ou vous êtes en plein dans la diffusion de celui-ci et dans la valorisation de celui-ci?
J'ai débuté un roman encore avec Berry, parce qu'on me le demande, en fait. Et puis, je me suis attaché à ce personnage. Et
il est attachant, hein. Ouais.
Et au début, bon, ça devait être
One-shot.
Ouais, voilà. et après, il y a des gens qui... C'est vrai, il y a des lecteurs qui m'ont demandé quand est-ce qu'il revient. Alors, bon, ben voilà. Et après, je l'ai fait revenir une autre fois en Béarn. Et puis, j'ai voulu revenir en Vallée d'Or.
D'accord. Et le prochain se déroulera entre les deux?
Oh, peut-être en Vallée d'Osso, mais ça, c'est un scoop. Hein.
D'accord. Alors, on se le garde sous le coude et puis on vous reçoit lorsque votre personnage, votre roman et votre personnage sera de nouveau en pleine enquête dans la Vallée d'Osso.
Donc, on vous dit à très bientôt, Philippe, pour que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne.
Voilà. Très bientôt, pas tout à fait, mais très bientôt. À bientôt.
Voilà, en 2026, on peut se dire.
Allez, au revoir Philippe et merci beaucoup. Donc nous recevions Philippe Pourxet pour du sang dans la vallée aux éditions Terre de l'Ouest. C'est une histoire qui se déroule en Vallée d'Or, au cœur des Pyrénées.
Et c'est un polar, on le rappelle, ce sont deux tiers des lectures.
Tout à fait. Allez, au revoir Philippe.
Au revoir Philippe.
Au revoir à vous deux et puis à vous trois et puis merci beaucoup.
Avec plaisir Philippe, à bientôt.
Allez, à bientôt.
Au
revoir.
Pour votre accueil. Merci.
Et bien voilà Philippe Subercase, ce que l'on pouvait dire sur ce roman du sang dans la vallée aux éditions Terre de l'Ouest. On se dit à la semaine prochaine. On ne vous entend plus.
Ben voilà, on dit comme ça.
On pensait avoir perdu Philippe Subercase.
Ouais. Parce que c'est l'heure du repas, donc. J'étais au micro-ondes, mais je suis là.
Ah, c'est le petit bruit qu'on entendait.
Ah, ouais,
là,
exactement.
Et une petite odeur, là, savoureuse.
Mais de loin, quand même, j'avais poussé le son pour vous écouter. Hein.
Oui, ah, oui.
Merci à tous les deux. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.